Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Virginie Thélène, présidente de l'Avenir pour tous. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Jean-Luc Touly, candidat aux élections européennes sur la liste jaune et citoyen avec monsieur Barnaba qui était ce matin chez notre patron Patrick Roger et Cécile de Ménibus dans la matinale, et vous êtes également président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption, et nous attendons Dominique de Montvalon qui est avec le président chinois. Non, il est bloqué par le président chinois. C'est vrai que c'est très difficile de circuler dans Paris puisque tout est bloqué par cette visite d'État. Alors, le temps de travail des fonctionnaires, l'État est-il un mauvais gestionnaire? On va parler de l'âge de la retraite. Est-ce que vous êtes prêt à partir plus tard si vous êtes retraité? Qu'en pensez-vous? Parce que votre avis n'est évidemment pas le même. Puis si on a le temps, on parlera du mariage des prêtres. C'est à la une du Parisien aujourd'hui.
Il y en a un qui se marie?
Mais il y en a un qui défroque pour justement dire qu'il en a marre de l'hypocrisie. Visiblement, le pape François avait l'air d'être un peu... Je ne sais pas, on va en reparler. Ça vous,
on va en parler.
Vous êtes une spécialiste...
Spécialistologue du mariage des prêtres.
Spécialiste du mariage des prêtres. Bah, on va commencer avec vous. Votre coup de cœur, coup de gueule, c'est quoi, Virginie?
Eh bien, écoutez, nous sommes le 26 mars. Il y a deux jours, nous avons fêté les 6 ans de la plus grande manifestation pacifique. Qui s'est déroulé à Paris, non pas sur les Champs-Élysées, ça nous était interdit à l'époque, mais depuis la place de l'Étoile, qui s'est étendue jusqu'à la Défense. Et elle vient, cet anniversaire, au moment où, 6 ans après, se sont levées des classes populaires, donc les Gilets jaunes, que vous connaissez bien, jeune homme.
Merci pour le jeune homme.
Qui ont commencé leur mouvement, ça me frappe beaucoup, ça je l'avais déjà dit une fois, le 17 novembre. Qui était exactement le jour où nous avons commencé nous-mêmes, nous, les classes supérieures, on va dire, celles qui n'ont pas de problème de survie tous les matins.
Tous ensemble.
Mais nous étions quand même partis ce jour-là. Et nous avons été le 24 mars, donc, à l'apogée de nos manifestations, pour terminer le 26 mai. Et ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, nous vivons une sorte de mystagogie, c'est un terme chrétien qui veut dire qu'on comprend après coup ce qui s'est passé. Quand on voit d'un côté les gilets jaunes qui aujourd'hui demandent à survivre parce qu'ils sont écrasés par la mondialisation, écrasés par les nouvelles technologies, perdent leurs emplois. On voit les jeunes qui descendent dans la rue parce qu'ils veulent défendre la planète, enfin défendre, demander aux classes dirigeantes...
Qu'on se préoccupe de la planète.
Eh bien, de quoi nous préoccupons, nous, ce qui est toujours le cas à l'Avenir pour tous, nous nous préoccupons aussi de l'écologie de l'espèce humaine, en fait. Et c'était ça que nous demandions, de continuer à faire nos enfants entre hommes et femmes, alors que en fait, la technologie va venir, comme en Chine aujourd'hui, modifier la fécondation. Mais, bien sûr, jamais sans reprocher aux homosexuels d'avoir des enfants, puisqu'ils en ont toujours eu. Donc, c'était bien notre propos à l'intérieur des familles homoparentales.
Mais vous rappelez qu'il y avait un million de personnes dans les rues.
Et surtout, Valérie et mes amis, parce que 6 ans après, on peut le dire, sur le coup, dans le pouvoir politique faisait en sorte qu'on n'entende pas bien le message de fond qui remonte et qui, encore une fois, remonte grâce aux autres catégories de population, c'était que nous étions pacifiques. Nous n'avons pas eu de blessés, nous n'avons eu aucune personne violentée, mais à un moment, il a fallu faire exploser ce mouvement par toujours de la radicalisation. Nous, c'était à l'extrême droite. Là, on voit de la radicalisation à l'extrême gauche pour les Gilets jaunes, les classes populaires. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que le pouvoir politique reprendra aussi la main le 26 mai, qui était la date de notre
fin de notre grande manifestation
populaire et citoyenne, avec notamment le référendum et les élections européennes qui auront lieu ce jour-là. Ça me frappe beaucoup. Voilà.
Dominique de Montvalon nous a rejoint. Bonjour Dominique. Alors votre coup de cœur, coup de gueule?
Quelques petites perturbations légitimement.
C'est ce que j'ai dit, que vous étiez
chinois.
Avec monsieur
le président chinois. Mais qui s'apprêtait, ou du moins l'avant-garde s'apprêtait à aller du côté de Versailles tout à l'heure. Non, mon coup de cœur, c'est pour l'accueil à Troyes du président chinois, précisément à l'Élysée ce matin, c'est-à-dire
Merkel, Juncker, Macron.
Pour deux raisons. D'abord, parce que quoi qu'on pense de l'Europe, il faut revenir à l'essentiel. Et si le noyau dur, aujourd'hui et après-demain, ne, ne, ne s'affirme pas, eh bien, on ira vers une désintégration de l'Europe. Donc, quoi qu'on pense aujourd'hui, et les uns et les autres, chacun à son avis, on en paiera, à mes yeux, lourdement le prix. Mais ce n'est pas joué. Et puis, c'est pour une autre raison, c'est parce que les gilets jaunes, c'est que, en tout cas, moi, pour moi, les gilets jaunes d'origine, c'est quelque chose de fort et qui dit des choses importantes. Mais il y a quelque chose d'angoissant à voir comment nous vivons, depuis des semaines et des semaines entre Français. Hein, comme si le monde n'existait pas, comme s'il ne s'y passait pas des choses absolument décisives qui vont peser sur notre propre destin. Ce n'est pas une question théorique. Donc, en évoquant cet accueil à trois du président chinois, trois Européens, je veux aussi manifester que pour une fois, il y a une petite brèche. Tiens, il y a un bout du reste du monde qui s'interroge sur les Gaulois que nous sommes et sur la façon dont nous parlons.
Peut-être pas pour les bonnes raisons non plus. Hein. Ce matin, la une de Libération, qui a toujours des titres assez bien choisis, c'est Xi le patron.
Vous me permettrez, boutade pour boutade, Libération est un journal extrêmement intéressant que je continuerai à lire. Il ne m'a pas semblé qu'il était toujours d'une lucidité totale depuis quelques années. Donc la marginalité positive de Libération est un élément du débat démocratique, mais n'est pas à mes yeux une référence.
Allez, on passe à Nicolas Corato.
Mais moi j'enchaîne, Dominique Duvallon, parlons du monde, du vaste monde. Moi j'avais un coup de gueule sur la stratégie des démocrates aux États-Unis face à Trump.
Donald Trump,
puisqu'on a appris cette nuit donc, que le rapport Mueller, qui est le rapport de ce juge fédéral, sur les soupçons de collusion entre Trump et la Russie pendant sa campagne électorale, finalement blanchissait, alors il faut le dire vite parce que c'est pas aussi simple que ça
je pense,
c'est l'effet qu'on retient, blanchissait Trump. Moi, ce n'était pas pour parler du rapport et de l'affaire en elle-même, mais pour dire que finalement, depuis deux ans, les démocrates aux États-Unis courent après Trump de manière judiciaire, juridique et pas du tout politique, qu'aujourd'hui, ils sont face à un échec et qu'au lieu de renouer avec les classes populaires qui ont déserté leur camp pour aller voter Trump, finalement, ils sont allés dans cette impasse du contentieux. Et ça me fait penser à la manière dont ceux qui s'affublent du terme progressiste en Europe finalement préfèrent se focaliser sur une sorte de complotisme du progressiste vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des fake news, etc., plutôt que d'avoir un vrai projet politique qui parle au peuple. Donc ça ne sert à rien uniquement d'opposer les populistes et le peuple. Il y a un moment, il faut parler au peuple, il faut savoir lui proposer un projet politique. Ouais. Et je pense que l'exemple et l'impasse dans lesquelles sont les démocrates aux États-Unis devraient parler à nos hommes politiques en Europe.
Eh bien, écoutez, peut-être que vous serez entendu. Alors, Jean-Luc, ça concerne Pascal Canfin, donc, qui a rejoint Nathalie Loiseau sur sa liste, sur la liste La République En Marche pour les européennes.
J'ai fait il y a quelques années un petit parcours avec Europe Écologie Les Verts.
Parlez bien dans votre micro,
quand
on vous entend pas bien.
François de Rugy, Barbara Pompili, Jean-Vincent Placé, Cécile Duflo, que des recasés. Et ensuite, Pascal Durand et Pascal Canfin, qui étaient notamment... L'un était secrétaire général, le numéro 1, etc. Et qui rejoignent, certainement pour des problèmes de poste, par opportunisme. Je pense que l'écologie, qui n'est pas uniquement le fondement d'Europe Écologie, tout le monde en parle, personne ne fait grand-chose, mais c'est encore une mauvaise tendance.
Ouais.
Et que... Moi qui suis avec Jean-François Barnabas sur la liste Jaunes et Citoyens, ben on se présente justement parce que quand tout le monde rejette, enfin beaucoup de gens rejettent la classe politique telle qu'elle est, ben ce sont des exemples qui ne sont pas vraiment bons pour la démocratie. Et quand je vois votre sondage ce matin où il y a 16% de personnes qui sont favorables à une présentation de la liste jaune,
pas de gilet jaune. Pas 16%.
16% de votre sondage, il y a 16% qui, par rapport aux 84% qui ne sont défavorables à ce que
une liste jaune soit présentée,
il y en a 16% qui sont favorables. Et le dernier sondage montre qu'il y a 5,5%. Donc il y a un potentiel. Je pense que ce genre d'exemple de gens qui passent d'une organisation à une autre, à la veille d'élection en numéro 2 pour avoir des postes, ce n'est pas un bon exemple pour la démocratie.
Ça l'affiche pas
mais
très bien.
C'est intéressant, je ne savais pas, Barnabas, c'est le gilet jaune qu'on a... d'ailleurs avec talent dans sa façon de parler, pendant des semaines et des semaines, nous exprimer toute une série de
choses. Jusqu'à début janvier,
catégorique et tranchante, et en nous expliquant qu'il ne ferait jamais de politique. Mais je me réjouis
Non, je pense que vous...
Moi, j'ai compris, je l'ai écouté, je l'ai vu, il y en a plusieurs qui sont assez plaisants. Mais je me réjouis qu'il ils découvrent que les élections, c'est dans une démocratie quelque chose de fondamental.
Et peut-être que dans 5 ans, les Gilets jaunes auront évolué comme l'Europe écologie.
Mais voilà.
Que
ce que et
ils auront
un
gouvernement.
Ils font la leçon à
tout le monde. On n'a pas trouvé mieux que le vote.
On n'a pas trouvé mieux que la démocratie. La démocratie, c'est le vote.
C'est pour ça que nous sommes sur les revendications du départ. Non, mais d'accord. Et nous sommes en favorable aux élections, parce que sinon, c'est la révolution.
Mais ça fait combien de temps, pardon, je ne connais rien, moi. Vous êtes là depuis combien de temps avec cette liste? Parce que madame...
C'est le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, et puis en 1968, c'était un autre symbole.
Mais il y a plusieurs listes, Gilets jaunes.
Pour nous, c'est la liste qui existe. Après, il y en a peut-être d'autres qui veulent. Mais on a 79 élus, pas 79, candidats, hommes, femmes, répartis sur l'ensemble de la géographie, avec des professions très différentes, et nous sommes là justement pour avancer.
Et la tonalité,
avancer.
Ce sera quoi?
C'est le pouvoir d'achat, la fiscalité, il n'y a rien d'extraordinaire.
Le RIC,
non,
dites-moi
pas spécialement.
Oh,
spécialement.
Moi, je veux le RIC.
Il y a, ça, la démocratie,
et
c'est pas que par
pour
ça.
Tous, vous en parlez, non votre...
On va en parler tout à l'heure, parce qu'on a une invitée qui est très compétente. Donc nous sommes pour présenter cette liste au suffrage. Et nous pensons...
Ça se présente bien, c'est... Non, mais parce qu'on a eu tellement...
Le Vavasseur, elle n'a pas tenu longtemps.
Ben, Irène Vavasseur va probablement, dans quelques jours...
Elle peut-être vous rejoindre.
On verra, c'est elle qui va l'annoncer.
Mais vous allez vous faire flinguer par une autre partie des Gilets jaunes. Vous êtes prêts? Vous avez des boucliers?
Mon parcours, je pense, que ce soit chez Veolia ou Frick, chez Daniel Mitterrand, a fait que ce genre de choses ne me fait pas peur.
D'accord.
J'ai conscience
vous
que c'est
attendez.
Pas simple.
Vous y attendez.
Mais je m'y attends, mais le problème, c'est qu'on essaye de faire l'unité avec des gens qui ne veulent pas participer à ces élections, en pensant que c'est dans la rue qu'on va régler les problèmes. Malheureusement, les révolutions qu'on a connues, ça ne marche pas. Au contraire, c'est même un retour en arrière.
Voilà, ça donne
donc,
le pouvoir au pouvoir.
C'est important qu'il y ait des manifestations, mais au bout d'un moment, il faut une traduction
sur
politique.
Sur ce plan-là, je vous approuve à titre personnel à 110%.
On va reparler tout à l'heure de Geneviève Le Guay, qui donc la personne d'attaque de 73 ans qui a été bousculée, il y a une plainte qui a été déposée. Mais juste, je voulais revenir sur Cesare Battisti, qui a été défendu par de très nombreux intellectuels, c'est François Hollande qui était allé le rencontrer en prison. Silence radio depuis hier de tous ces gens qui l'ont soutenu, alors qu'il a avoué finalement avoir assassiné 4 personnes. Il a reconnu ce qu'on lui reprochait. Donc,
il a reconnu ce qu'on lui reprochait, il s'est excusé. L'histoire n'est pas aussi simple que ça.
Non, mais justement, je crois que c'est intéressant d'en
parler. Il a continué à soutenir qu'il considérait que cette cause folle, il l'a dit, il a employé le mot, était juste. Et il faut remonter, je veux dire, c'est compliqué aujourd'hui de se replonger comme ça, ex nihilo, dans les années de plomb, qui ont été des années très compliquées.
Mais on parle pas de ça, on parle des gens qui l'ont défendu en disant il est innocent, c'est là-dessus.
On n'a jamais défendu... Moi, je suis un des défenseurs de Cesare Battisti.
Mais vous défendez quoi?
Mais moi, je défends l'histoire de ces militants dans des années où, effectivement, les pouvoirs et les clandestins se sont livrés à une guerre sans merci et sanglante. Et je pense qu'il y aurait dû y avoir une amnistie dans tous les pays européens concernés pour en finir avec cette histoire chaotique, sanglante, et que rien n'explique. Simplement, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours trouvé que la position de la France, jusqu'à ces dernières années, considérant Cesare Battisti et d'autres, était une position fondée et finalement assez responsable. C'est-à-dire on met fin à des ordres sociaux, et d'une certaine manière, on acte une forme d'amnistie ou de protection. Mais aujourd'hui, replonger dans les années de plomb comme ça, de manière absolument objective ou rationnelle, ça me semble très compliqué. Et effectivement, moi, je dénonce le silence de tous ceux qui ont accompagné et soutenu Cesare Battisti depuis des années et qui sont aux abonnés absents aujourd'hui.
Oui. Un mot de minute.
À titre personnel, je peux comprendre l'idée qu'on aurait pu imaginer, pas maintenant, mais il y a ces dernières années, une forme d'amnistie politique. On a connu ça dans d'autres circonstances. Encore fallait-il, pour cela, que la vérité soit dite. Et que la vérité vraie,
ça,
si je puis dire.
Oui.
Et la question qui était posée, qui vous était posée, qui nous est quelque part posée, c'est quand même, là aussi, comme sur toute une série de dossiers, le mensonge par omission, ou même le mensonge explicite qui a été un des éléments d'une idéologie ambiguë qui a servi de...
Dominique, reconnaissons que sur ce sujet des deux côtés, il n'y a eu aucun travail d'historien, aucun Absolument. Travail de mémoire citoyen mené de manière digne Absolument. Et qu'il faudrait Absolument. Un jour le faire.
Absolument. Allez, on se retrouve Absolument. Dans un instant et on va reparler de Geneviève Le Guay. Donc, on va parler peut-être de la récupération politique. Vous avez peut-être entendu Jean-Luc Mélenchon parler de notre Geneviève et de Raquel Garrido.
Notre Sainte Geneviève.
Et Raquel Garrido avec le hashtag « Je suis Geneviève ». Voilà.
Ah, il a fait ça ?
Elle a fait ça, Raquel Garrido, oui.
Mais Raquel,
donc on va en reparler dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, on va revenir sur le travail des fonctionnaires. L'État est un mauvais DRH, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin. On va parler de la retraite, mais avant, je voulais qu'on parle donc de Geneviève Le Guay. On en a beaucoup parlé hier. Tout le monde était d'accord pour condamner la phrase d'Emmanuel Macron hier sur ce plateau décalé. Mais depuis hier, beaucoup de récupérations politiques, celle de Jean-Luc Mélenchon qui parle de notre Geneviève, de Raquel Garrido qui met le hashtag « Je suis Geneviève », son avocat qui dans un premier temps a dit qu'elle était dans le coma, finalement elle n'est pas dans le coma, le procureur de la République qui dit qu'elle n'a pas été bousculée par les policiers, que sa chute est antérieure à la... Enfin, les CRS étaient là. Récupération politique, ça devient un peu fatigant tout ça, non ?
Oui, c'est extrêmement fatigant d'exploiter quelque chose comme ça.
Ouais.
Et je crois qu'il faut prendre le temps d'avoir les éléments pour éventuellement émettre un jugement. Et là, d'utiliser ça à des fins électorales, enfin, à des fins qui ne sont pas très, très, très avouables, je trouve ça, c'est un peu lamentable.
Ouais, vous voyez où on en est. Avant, c'était Geneviève de Fontenay qu'on essayait de
Virginie
récupérer.
Hélène, ouais.
Maintenant, on a ouais. Geneviève Le Guay. Non, ouais. Plus sérieusement, c'est surtout parce qu'il ne s'était rien passé cette journée de samedi. Donc, il a fallu sortir un événement comme ça. Quand on passe de tous les kiosques à journaux qui crament sur les Champs-Élysées à rien du tout, des vraies marches, surtout on n'en parle pas quand ça se passe bien. Et on va nous trouver Mamie Geneviève, là, qui allait faire son boulot de militante d'attaque. Mais voilà, après, effectivement, elle sert de faire valoir à nouveau.
Ouais, bon. Ouais. Dominique ?
Moi, je suis consterné. Je suis consterné. Non, mais... J'ai été, comme tout le monde, surpris et ému quand j'ai appris ce qui lui arrivait. J'ai cru naïvement, pas longtemps, à ce que racontait l'avocat militant, qui est plus militant qu'avocat, et qui nous a raconté qu'elle était dans le coma, que ceci, enfin, qu'elle ne s'en sortirait pas, et que les forces de l'ordre l'avaient quasi piétinée. Il y en a marre, je veux dire. C'est aussi un autre aspect, j'ajoute ceci, cette façon d'agir ou de réagir nourrit l'art, malheureusement, en progrès des fake news. Mmh. À partir du moment où les gens s'aperçoivent que c'est pas vrai, ou c'est pas exactement ça, ou que c'est tout entièrement déformé, etc., ça veut dire que la vérité vraie, elle ne pèse plus rien. Mmh. Donc, il y en a marre.
Ouais. Enfin, on a Christophe qui voulait réagir également sur le sujet. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à vous toutes
bonjour.
Et vous tous.
Merci vous
de me laisser un petit peu la parole. Je vais être bref. Pour revenir à Geneviève, j'espère qu'elle va vite se remettre.
Deuxièmement, il paraît que ça va mieux.
Oui, elle était mourante, maintenant elle va bientôt
sortir. Ressuscite.
Elle ressuscite. concernant son attitude, c'est une manif, tout le monde le dit, c'est une manif interdite, des sommations, dispersions ont été prononcées, elle n'a pas bougé, elle a assumé un certain risque, il faut quand même le reconnaître. Nous sommes tous parents d'enfants où nous avons nos parents qui peuvent vouloir participer à une manifestation, nous faisons attention à ce qu'ils ne soient pas en danger quand ça peut être le cas. Les vidéos parleront, ça c'est une évidence. Par contre, je rejoins Dominique de Montvalon qui parle d'une récupération politique évidente, en attendant éventuellement un mort. D'accord.
Et vous avez dit ça, Dominique ?
Non, Dominique n'a pas dit ça.
Vous avez, monsieur le Montvalon, vous avez parlé de récupération, je suis d'accord.
Oui, oui, oui.
Et moi, je rajoute que on aimerait bien avoir un mort. Dans tous les cas, à cet âge-là, on ne fait pas d'escalade, de windsurf, de plongeon extrême sans connaître les risques.
Ouais. Donc là, vous rejoignez finalement le président de la République. Hein. Hier, ce n'était pas du tout la tonalité.
Mais pas que lui. Il n'est pas le seul le seul à lire correctement l'événement. Mais je voudrais conclure, et je vous rends la parole, bien évidemment. Moi, je serais pour que son association, je pense que son association est coupable et doit être poursuivie pour mise en danger d'autrui. Alors, est-ce que c'est volontaire que cette dame a été mise en première ligne?
Elle y est allée toute seule, on l'a vu, c'est une militante, c'est une habituée des manifestations.
Je ne peux pas vous laisser dire ça, moi j'ai été militant de l'attaque de 1999 jusqu'en 2007. J'étais d'ailleurs au conseil scientifique d'attaque aux côtés de quelqu'un qui est décédé, oncle Bernard, Bernard Maris. Ouais. Donc c'est surtout cette association qui a montré la question de l'altermondialisme. Donc moi je salue cette militante, mais je dénonce la récupération malsaine des partis politiques. Voilà. Elle avait le droit de manifester.
Absolument, enfin, mais on dit la même chose. Hein.
De Jean-Luc Mélenchon, dites-le nom, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est
pas seulement, un peu au-delà.
Ceux qui font des hashtags « Je suis Geneviève » à la place de « Je suis
Charles ». Tout ça est consternant, voilà, point. Bien.
Mais je vois pas, les gens nous disent sur Internet, je suis choqué du mépris sur cette dame, j'ai vu les vidéos, on juge pas ça, tous ceux qui nous disent, vous êtes méprisants. On n'est pas méprisants hier, je crois qu'on a, on a parlé de façon assez franche et directe de cette dame. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est la récupération politique, voilà, absolument. C'est tout, point barre, c'est notre Geneviève. Je vois pas en quoi Jean-Luc Mélenchon peut dire notre Geneviève ou Raquel Garrido, je suis Geneviève. Enfin, c'est uniquement ça, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de, jugement, il n'y a pas eu...
Elle
voilà.
a fait son boulot de militant.
Voilà.
Exactement.
Allez, on se retrouve dans un instant.
On s'y connaît, nous.
Et on va parler de nos fonctionnaires. L'État est-il un mauvais gestionnaire? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec aujourd'hui Virginie Tellen, présidente de l'Avenir pour tous, Dominique de Montvalon, journaliste politique, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Jean-Luc Touly, candidat aux élections européennes sur la liste Jaunes et Citoyens, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Et co-auteur des Recasés de la République.
Ah oui, les Recasés de la République, c'est votre livre.
Non, j'aime bien le nom du FRIC. Voilà,
c'est du FRIC, oui.
Chic.
Ah bah oui.
Bah oui.
Le ministre Darmanin, donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a reconnu qu'il y avait 190 000 agents dans la fonction publique d'État pour lesquels on ne comprend pas très bien pourquoi, je cite ses propos, ils ne travaillent pas 35 heures. Donc ces 190 000 fonctionnaires font moins que le temps de travail requis. Donc au total, si on faisait revenir aux 35 heures les quelques 190 000 agents de l'État pour lesquels les dérogations n'ont pas de justificatif, ça permettrait de réduire de 30 000 postes, voilà, et on rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis d'en supprimer 50 000, donc c'est...
Attendez, oui. Moi j'ai entendu qu'avec l'histoire des congés fractionnés qui sont donnés aussi à certains fonctionnaires, on peut arriver à économiser 18 000 fonctionnaires, enfin à peu près 20 000, et pile, on arrive à nos 50 000.
Et ben voilà.
De dingue.
C'est magique.
Hein, c'est magique. Oui.
Alors, monsieur Darmanin,
il y a plusieurs choses. Le timing de cette enquête est pour le moins stupéfiante.
C'est stupéfiant. C'est un rapport de l'Inspection Générale des Finances, donc nécessairement c'est politique, ça arrive au bon moment, effectivement on tombe pile poil sur le bon chiffre,
on y arrive.
Bravo les énarques. Au final, quand même, on oublie de dire une chose, c'est que pourquoi est-ce que les fonctionnaires travaillent peu en horaire? Tout simplement parce que quand ils font des heures supplémentaires, on ne les paye pas. En heures supplémentaires.
Oui, mais là, on ne parle pas d'heures supplémentaires, on parle de faire son boulot.
On leur propose de rattraper par des jours les heures qu'ils font par ailleurs. Et notamment, quand vous êtes en astreinte, quand vous êtes fonctionnaire, vous récupérez des journées. Donc, au final, vous êtes en dessous, en termes de nombre d'heures effectuées, du seuil des 35 heures, mais tout simplement parce que l'État n'a pas de politique salariale, parce qu'il ne peut pas en avoir vis-à-vis des fonctionnaires. Donc, ça pose un petit problème. L'autre souci, moi, que je vois dans les annonces qui sont faites, c'est quand même cette manière de mettre en opposition, qui est toujours la manière de ce gouvernement de cliver entre les fonctionnaires qui auraient des statuts pénibles et ceux qui n'en auraient pas, entre les bureaucrates et ceux qui seraient dans les guichets. Si bien que même dans Le Figaro, qui est un grand journal qui nous a habitués à beaucoup plus d'objectivité que ça, l'article se termine en disant et quant à ces fonctionnaires qui sont dans les préfectures derrière leurs guichets et qui se chargent de l'accueil du public et de la délivrance des titres de séjour, qui n'ont donc pas, c'est écrit comme ça, de pénibilité, Effectivement, il pourrait un peu travailler plus. Mais enfin, moi, je dis à votre collègue Marc Landré d'aller faire un tour boulevard Suchet ou à la préfecture
c'est
de police.
C'est aussi votre collègue.
Peut-être y passer une journée. Constater qu'effectivement, quand vous êtes derrière les guichets à la préfecture de police, avec une file d'attente de plusieurs centaines de mètres, vous n'êtes pas nécessairement dans une situation extrêmement confortable. Donc, on est sur le vieux truc. Les fonctionnaires ne travaillent pas, sont des feignasses. Il faut les remettre au boulot. Et c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de l'État et du déficit. Je pense qu'on se trompe de cible et de méthode.
Oui, Jean-Luc, tu
Je vais dans le même sens, mais avec un autre élément, c'est qu'on a eu un certain nombre de dispositions législatives, notamment la loi NOTRe, pour la mutualisation, la suppression, enfin pas la suppression, mais il y a trop de communes, on va rajouter une couche, donc au millefeuille, à travers les intercommunalités. Mmh. Et donc là, on a des doublons entre les collectivités locales et ces intercommunalités. Donc là, effectivement, il y a des gens qui sont parfois en trop grand nombre et qui sont centralisés dans ces intercommunalités, alors que justement le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'il n'y a pas assez de services publics de proximité.
Oui, complètement.
Et c'est là qu'il faudrait redistribuer ces personnes qui sont dans ces intercommunalités, qui sont très loin des préoccupations des gens, et qui font des doublons. Donc remettons ces gens-là au plus près des habitants, et déjà, là, on n'aura pas besoin d'embaucher, on n'aura pas besoin de dégraisser, mais ça répondra notamment au problème des services publics de proximité. Comme je suis syndicaliste aussi, je constate aussi que... J'avais que j'étais cumulard, mais par contre, au niveau des indemnités, il n'y en a pas.
J'étais bluffé par le côté...
C'est peut-être cette expérience-là d'associatif, de syndicaliste qui m'a montré que peut-être aujourd'hui...
Il faut être élu.
Mais bon, j'ai été aussi élu, et j'ai été très déçu aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette possibilité de mettre, pour les EHPAD, pour la Poste, pour un certain nombre de services publics, aujourd'hui, les personnes qui sont en difficulté, s'ils n'ont pas Internet, ils ne savent pas utiliser, ils n'arrivent pas à toucher leurs droits. Donc là, il y a un problème de ce côté-là.
Oui, mais Jean-Yves.
Jean-Luc.
Le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'ils veulent les enlever, les fonctionnaires. Ils ne vont aller les mettre ailleurs.
Il n'en faut plus.
Ouais. Vous comprenez ?
J'ai bien compris ça.
Ce qu'on arrive à voir, c'est que les services publics, ils ne vont pas les remplacer. Il y a tous les jours des reportages sur TF1 qui nous expliquent qu'il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de machin, il y a un pauvre maire qui se retrouve tout seul, et les maires eux-mêmes ne veulent plus être maires. Vous comprenez ? D'où l'intercommunalité dont vous nous parlez.
Les jaunes en particulier.
Absolument. Bon, juste pour dire une chose.
Virginie.
Moi, j'y vois quelque chose de plus...
Politique, non ?
Puis surtout une politique qui est bien différente, qui est une politique de privatisation de l'État. Voilà, on vend Aéroport de Paris, la France...
J'avais pas repéré que vous étiez passé... vous étiez dans une gauchisation de votre analyse, qui est spectaculaire, impressionnante.
Pas du tout, vous ne m'avez jamais entendu.
Mais je pense qu'il y a du sens.
Je pense qu'elle va nous rejoindre bientôt.
Vous considériez que les analyses qui étaient faites de votre projet étaient erronées. Mais maintenant, ça devient clair.
Je me rends compte que la mondialisation s'applique.
Mais ce mot de DRH employé par le ministre des Comptes Publics est assez symptomatique et symbolique. On a Dust en ligne avec nous. Bonjour, Dust.
Bonjour.
Vous en avez marre, vous ?
Moi ça va à peu près, je suis au soleil des Pyrénées, donc ça va. Je vous entends discuter, et effectivement, je rejoindrai certains de vos interlocuteurs quand ils parlent de clivage. Diviser pour mieux régner, les fonctionnaires qui travaillent beaucoup, ceux qui ne travaillent pas, les fonctionnaires et le privé, tout ça c'est effectivement, à mon avis, essentiellement politique. Le truc, c'est que avant-hier, j'ai amené ma mère qui a 80 balais aux urgences à Saint-Gaudens, qui est quand même pas un petit village, quoi. Il y a quand même 15 000 habitants, un hôpital assez conséquent. Il y avait un seul docteur. Et quand ce docteur il part à l'intervention, et bien pour que ma mère ait son plateau repas, il faut le temps qu'il revienne pour qu'il autorise à manger. Donc supprimer des fonctionnaires, c'est un truc qui est super à la mode depuis l'avènement du libéralisme. Tout le monde aujourd'hui est plus ou moins libéral dans sa tête, quoi. Et du coup, qui c'est qui ramasse ? Eh bien, c'est les gens qui ont besoin de ces services publics. Parce que derrière les fonctionnaires, il y a des services rendus à la population. Et ces services, ils ont un coût. Et normalement, Moi, je veux dire, mon père était gaulliste. Moi, c'est pas mon cas, mais il était gaulliste. Et aujourd'hui, j'en vois plus du tout des gaullistes. Et dans sa tête, il savait bien que s'il voulait exploiter ses pauvres, eh bien, il fallait qu'ils soient à peu près en bonne santé et qu'ils puissent vivre de leur salaire, ce qui n'est plus le cas. Et du coup, maintenant, on nous rabâche qu'il faut dégraisser, supprimer des fonctionnaires. Mais ça va être un truc de dingue, parce que effectivement, c'est une sorte de privatisation de l'État. Mais il y a les classes moyennes, notamment, qui sont relativement libérées. Il va falloir qu'elles se rendent compte que certaines n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner dans le privé. Et que certaines classes moyennes, elles seront obligées de revenir à l'hôpital public. Et le jour où elles seront soignées avec des fourchettes et un lance-pierre, eh bien, ça ne va pas le faire, quoi. Et ça sera trop tard, parce qu'on aura tout pété. On sera devenu comme les États-Unis ou le Chili, des pays... le Chili, je ne connais pas trop mal. Et c'est un pays ultra-libéral. Eh bien, je vous dis, il y a un truc que vous n'avez pas envie, c'est de tomber malade. Ouais. Vous n'avez pas envie d'avoir des enfants pour les envoyer à l'école. Ouais. Parce qu'il y a aussi y a la santé, il y a l'école, il y a la justice. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu prise de chou, cette volonté permanente de supprimer des fonctionnaires en nous faisant croire qu'ils branlent rien, quoi. Ouais. Ça, c'est...
On ne peut pas dire les fonctionnaires, c'est bien ça le problème, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pas les fonctionnaires.
Et puis, la valeur du point qui sert d'évolution de leur rémunération, et c'est bloqué depuis plusieurs années.
Oui,
donc c'est pas des gros salaires. Non,
Dominique de Montballon, on entend ce que dit
J'entends parler de libéralisme ou de privatisation. Admettons que c'est une menace. Elle est pour l'instant un caractère violemment théorique, hein, parce que pour l'instant, on a un État omnipotent, obèse, aux yeux de beaucoup de moins, et on n'est pas sur le chemin ni du libéralisme, ni de, supposé que ce soit un objectif, ni de la privatisation. Mais ce qui me frappe, c'est que en réalité, il y a des demandes très fortes, et d'ailleurs, on vient de les entendre avec certains de vos auditeurs, des demandes très fortes et ô combien légitimes, de plus d'État. Dans la police, dans la gendarmerie, dans les prisons, dans les hôpitaux.
Mais c'est la base des gilets bleus, des gilets jaunes, pardon, c'est dire, pardon.
Le point de départ,
c'est de dire on paye des impôts, et où sont les services publics?
D'accord. Mais moi, je dis, je me permets juste de dire, et je n'ai pas les solutions, je me permets juste de dire sur ce premier point, qu'à la fois, il y a une demande très forte de plus de services publics dans toute une série d'endroits cruciaux, et on se demande, mais où est passé le service public? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Et on en paie, disent les citoyens, on en paie le prix. Les Gilets jaunes ont été un des mouvements qui a incarné cette demande-là. En même temps, il y a un problème. Cet État est structuré en dépit du bon sens, parce qu'il est difficile de nier que c'est par rapport à, je sais pas quoi, tous les pays européens, nos voisins, donc, quoi, qu'on a un État absolument omnipotent, présent pour... Bon, ok, Dominique. D'accord, donc il y a c'est quelque chose partout. Qui n'est pas structuré.
Je voulais juste... Donc il y a un problème de DRH, c'est bien ce que dit Darmanin, il y a un problème de gestion.
Juste sur le rapport que cautionne, que promeut Darmanin. Moi, ce qui me fait sourire là-dedans, bon, comme vous l'avez remarqué, et que vous l'avez fait remarquer, ça tombe pile poil pour que ça fasse 50 000, etc. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de passer de l'idée qui prévalait chez certains il y a seulement 3-4-5 ans, de suppression du nombre de fonctionnaires, à une mise en cause du fait qu'une fraction des fonctionnaires ne travaillerait pas assez, que ce serait la clé de l'affaire. Alors moi, je pense qu'il y a effectivement, et par chose vécue, qu'un certain nombre de fonctionnaires gagnerait à travailler un peu plus. Hein. Mmh. Bon, mais passons. Ouais. Mais c'est quand même une habileté, tout ça. Ouais. C'est une habileté. Il faut réfléchir à la façon dont est structuré aujourd'hui l'État. Mais pour ça, il faut que les débats aient lieu...
Si je peux me permettre, par rapport à l'intervention de Virginie, que je partage... Les services publics locaux, l'eau, les déchets, le transport, le chauffage, les parkings, etc., c'est trois entreprises privées, des multinationales depuis des années. Veolia, ex-général des eaux, Suez, ex-général des eaux, et Vinci. Mmh. Il y a aussi les autoroutes.
Et bientôt l'aéroport de Paris.
Donné par M. Macron, d'ailleurs, en 2013, avec Ségolène Royal, dans un accord secret que, justement, Raymond Avrier vient de redécouvrir, plutôt. Donc, tout ça, le sentiment de privatisation, ça existe. Parce que dans les communes,
pendant ce temps,
vous
ne
voyez
ne
pas tellement de fonctionnaires.
Alors, il y a un problème, là, Dominique, ouais. T'es d'accord. Donc, ce n'est pas moi qui fais tout d'un coup un virement socialiste et gauchiste. Ça n'a rien à voir.
Ce serait tellement drôle.
Non, ce n'est pas du tout ça.
Mais parce qu'on a créé des fonctions dans l'État et dans la fonction publique. D'abord, l'État est dans un état d'indigence totale. Moi, les services concentrés de l'État sont dans un état vraiment extrêmement préoccupant. Et vous avez raison, finalement, on a enlevé des gens sur le terrain, on les a mis dans les boîtes privées, hein. Les gens qui ramassent les poubelles, les gens qui s'occupent de la propreté dans les hôpitaux, parfois même de certains soins, tout ça est privatisé. Et on a recruté dans l'État des gens qui gèrent les dossiers pour que finalement les rapports avec les prestataires privés se marchent. Donc on a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont des grands spécialistes des marchés publics.
Pas du contrôle,
Qui devrait aussi contrôler. Ouais. Donc tout ça fait énormément, pour le coup, de paperasse et de fonctionnaires extrêmement techniques, mais plus du tout sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on aurait besoin de fonctionnaires qui travaillent dans le social, on ne les trouve plus au contact des gens, tout ça a été délégué aux associations, donc on préfère payer les fonctionnaires pour monter des dossiers de subvention aux associations qui font le boulot social, plutôt que de gérer directement
Donc l'État marche de traviole.
Parce qu'on a considéré à un moment que tous ces services devaient être délégués. Et ça, c'est un point de vue complètement politique. Et pardon, Dominique, c'est l'effet du libéralisme.
C'est cela. Mais cela dit, sur le social, les associations, normalement, sont quand même assez compétentes.
Mais je ne suis pas certain que les associations servent.
Pas toutes, mais quand on n'arrive pas à donner à manger à la population et que c'est les Restos du Cœur qui le font, ça s'appelle une association.
Oui,
c'est
quand même la plus grosse. Mais ça pose un problème de solidarité.
Je vous donne un exemple terre à terre.
C'est pas très politiquement correct de le dire.
Pas le plus important. À Paris, la maire de Paris a délégué la collecte des contraventions.
Bien sûr, elle
l'a privatisée. Je peux vous dire, mais tout le monde pourrait vous le dire, que ça marche du tonnerre de Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas. Vous êtes taxé immédiatement.
Alors que ça ne marchait pas avant.
Ça rapportait de l'argent. Comment ça se fait que ceux qui le faisaient dans la municipalité auparavant ne soient plus en charge de ça? Attendez, c'est un modeste exemple.
Mais vous avez raison, c'est scandaleux.
Ça permet de mettre l'éclairage.
Il y a d'autres exemples sur l'eau et l'assainissement. Par exemple, quand vous voyez les factures, quand c'est Veolia SOS, c'est quand même beaucoup plus cher que quand c'est géré par le service public lui-même.
Je sais pas.
Parce qu'évidemment, il y a des marges bénéficiaires et c'est bien.
En même temps, est-ce que de l'autre côté, la déperdition qu'il y a avec des gens qui ne travaillent pas 35 heures ne compense pas cette perte-là?
C'est pas un justificatif.
Il faut que les
gars soient stables. Il faut que l'État soit réformé.
Pour qu'il soit fort et qu'il remplisse ses...
Mais moi, juste vous lire Anne qui dit, alors toutes les opinions s'expriment, il faudrait peut-être faire la chasse aux glands de la fonction publique qui arrêtent 8 jours avant leurs vacances ou qui prennent les congés enfants malades alors que les gosses n'ont rien. Délai de carence, voilà, c'est aussi une opinion.
Ça, c'est le vieux discours, l'eau de pauvre.
C'est les usagers parfois des services publics qui ont ce ressenti-là.
On a les mêmes sujets dans le privé, on a l'impression que ce serait.
Oulala, beaucoup moins.
Mais attendez, vous voulez aller voir la gestion de nos multinationales françaises qui se casse la figure tous les 3 ans. Elles ne tiennent pas le choc.
Ceux qui travaillent dans le privé savent qu'ils sont contrôlés et qu'ils ne peuvent
pas
faire un pas de traviole.
On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. On a Paul en ligne avec nous qui souhaitait réagir au sujet précédent sur les fonctionnaires. Bonjour Paul.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien. Bon. Oui, je disais, et je vais vexer du monde, mais c'est de la poudre aux yeux, cette histoire de baisse de nombre de fonctionnaires.
Pourquoi?
Puisque vous ne pouvez pas vous en séparer. Je suis allé au grand débat, madame.
Oui. Bravo.
Je m'y suis impliqué, j'ai rencontré députés, sénateurs et tout, monsieur, pour vous répondre derrière. Vous voyez, je me suis très impliqué dedans.
Oui.
Avec un listing de ce que je voulais. J'ai pas été pour défendre mon nombril et les poils qui sont autour. Je suis allé pour défendre des positions. Et je me suis aperçu, puisque je me suis insurgé, on avait eu le cas sur notre communauté de communes, qu'on avait placé à un poste assez doré, il me semblait, une secrétaire de mairie. Mais le président de la communauté de communes m'a expliqué, ça c'est quand j'en rencontre en particulier, qu'on avait eu des fusions de communes par chez nous. Donc il y avait des secrétaires qui tombaient. Ces secrétaires-là, on n'a pas pu les licencier avec le statut de fonction publique. Et c'est l'État, on les paye d'un côté, alors je ne veux pas dire de bêtises, il y a d'un côté, il reçoit 70%, je ne sais pas si c'est de l'État ou de la commune, et 30% c'est le complément de la commune ou communauté de communes. Vous voyez? et vous ne pouvez pas les licencier. Alors chez nous, il y en a une qui a accepté de secrétaire, elle est partie au Parc et Jardins. Très bien, elle a voulu faire cet effort-là. Ouais. Mais il m'a dit, on en a payé chez eux pendant 5 ans.
Ouais.
Vous ne pouvez pas... Donc c'est du cinéma qu'il faudrait faire. Alors, je vais vexer du monde pour en terminer très vite. La seule façon de faire baisser le nombre de fonctionnaires, c'est de, à partir d'un certain niveau, c'est pas le grâce-papier en bas, il me gêne pas, celui-là. On a besoin de lui tous les jours. À partir d'un certain niveau, il faut casser le statut de la fonction publique pour faire tomber toutes les hautes têtes qui sont là depuis 40 ans et qui sont là des pieds au chaud.
Mais alors ça, voilà. C'est encore plus... Merci Paul, c'est encore plus compliqué à faire de faire tomber des gens qui sont là depuis 40 ans. L'idée, c'est le non-renouvellement, je pense, des fonctionnaires. C'est surtout ça qui est dans la tête du ministre des comptes publics, non ?
Un dossier impossible. On essaye de trouver des...
Et je vous rappelle que François Fillon a dit on en enlèvera 300 000.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait dit.
Là, on est à 50 000 et on n'arrive pas à sortir...
Ne revenons pas à l'époque Fillon. Ouais.
Non, mais pas du tout, mais j'ai pas dit ça.
Je voulais qu'on dise quand même quelques mots de ce dossier du Parisien de ce matin sur le mariage des prêtres, puisque Mgr Pascal Wenzer, qui est archevêque de Poitiers, s'est prononcé, lui, en faveur de l'ordination des hommes mariés. Il y a le témoignage d'un prêtre qui a décidé de défroquer pour se marier. Oui. En 2017, le pape ouvrait la porte à l'ordination d'hommes mariés. Si la situation n'a pas évolué, c'est une question en tout cas qui divise et vous y êtes farouchement opposé.
Alors non, pas aux hommes mariés comme le propose le Saint-Père et donc un archevêque français qui vient de dire, c'est pas la même chose. Un homme marié arrive dans le sacerdoce parce qu'il a déjà toute son expérience, il a travaillé, etc. Là, on parle pas de la même chose de mon point de vue, j'ai pas vu le Parisien, mais c'est un prêtre qui a été ordonné, célibataire, et puis qui est tombé amoureux, et puis qui défroque en disant « c'est plus possible ». Et puis par ailleurs, comme vous avez toute la problématique de la pédophilie, etc., beaucoup répondent à la pédophilie, il faut qu'ils se marient. Alors moi, je vais tout de suite vous donner mon point de vue, comme je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord. C'est qu'en fait, si en plus les prêtres se marient, c'est fini de l'Église catholique. Elle est déjà totalement... vous avez vu ce qui est en train de se passer. Personne n'a relevé l'importance. On a décapité la tête de l'Église catholique avec le cardinal Barbarin. Et en plus, le pape qui refuse de voir les victimes et pas les... Bon, bref, et refuse la définition. Moi, ma proposition est la suivante. Si on veut garder cette dernière institution qui a tenu pendant 1500 ans notre civilisation judéo-chrétienne et occidentale, c'est pas la peine d'en faire un autre protestantisme ou une autre religion qui n'a plus de transcendance. Il y a dans l'Église encore des jeunes prêtres qui, eux, sont saints prêtres et se tiendront, excusez-moi, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Ceux-là, il n'y a pas de raison de leur dire « vous choisissez ». Ils vont choisir le sacerdoce et ils pourront convoquer Jésus et épouser Jésus et le convoquer dans ses mains. Mais les autres, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui on est dans une société, une civilisation, c'est plus possible de tenir. Il faut leur proposer un tiers ordre, un autre statut intermédiaire entre le diacre qui est en dehors de l'Église, parce qu'il travaille, il a une profession, et le prêtre qui n'a pas à être en même temps le chef d'entreprise de sa paroisse, à gérer les problèmes techniques, les machins, les trucs. Il faut, des couples consacrés qui s'occupent de repeupler l'Église catholique. Là, je suis d'accord.
Les uns les autres, Nicolas.
Moi, je vais adhérer à votre propos, pas pour les mêmes raisons, mais d'abord parce que je pense que...
Vous êtes moins catholique que moi.
Ah, mais je le suis... Ah, moi, je vous permets pas de juger ma foi catholique, mais il se trouve que je le suis. Alors, je ne sais pas si je le suis autant que vous, je vous laisserai en juger.
Ça, je n'en jugerai pas.
Parce que je n'ai pas participé à vos manifestations, j'étais farouchement opposé, mais ça ne fait pas de moi un catholique
et ce n'est pas là-dessus qu'on va juger.
J'espère bien.
Ne me laissez pas...
J'espère bien, mais il y a une tentative quand même de nous exclure d'un certain nombre de vos paroisses.
Pas du tout.
Si, il y a une radicalisation des paroisses et de l'Église catholique en France qui est très inquiétante et que vous avez initiée, représentée, symbolisée et à mon avis à tort.
Mais pas du tout. Est-ce que je peux vous dire que j'ai été moi-même exclue de mon propre mouvement?
Alors, en tant que catholique, puisque c'est comme ça que nous nous définissons aujourd'hui...
J'ai été exclue de mon mouvement en mai 2013 par l'Église.
Moi, ce qui m'importe, c'est le mouvement ne correspond pas à celui des catholiques
Donc,
de France.
Mais ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est la fin d'une
famille? Toute famille peut avoir des enfants homoparentales.
Moi, ça ne me choque pas que des hommes, aujourd'hui, dans une époque un peu compliquée, restent fidèles à des serments qui sont des serments de vouer leur vie entièrement à un sacerdoce. sacerdoce. Et en tant que catholique, moi j'y tiens.
Et au Christ.
Je tiens à ce sacerdoce. Alors, un acte de foi, c'est pas logique, c'est pas rationnel, ça ne s'explique pas par rapport aux difficultés actuelles de l'Église. Moi je vais vous dire, l'Église, elle est effectivement dans une mauvaise passe, c'est pas la première fois. Je crois à la force de l'espérance. Elle va tomber peut-être très bas, et tant mieux. Et un jour, elle remontera, c'est pas le problème. On n'est pas en train de faire une géopolitique de l'Église catholique par rapport aux autres religions.
Mais c'est fini, ça ne m'intéresse pas. Vous dites quoi
bah, moi, je suis opposé très clairement en tant que pratiquant et croyant à la réforme du statut des prêtres. Je pense que les prêtres doivent rester dans la religion catholique, des hommes entièrement dévoués à leur sacerdoce et qui donc se consacrent à Dieu et aux autres et non pas à leur famille, à leur éducation, à leur vie privée. Je pense que c'est un très joli symbole qui est très difficile à expliquer aujourd'hui. C'est vrai que c'est inexplicable, ça devient irrationnel dans notre société qui est devenue irrationnelle elle-même. Mais je trouve que ce sont des symboles très importants et qui disent quelque chose. Voilà. Après, je vous rejoins en revanche sur le statut des laïcs dans l'Église. Effectivement, il y a une vraie réflexion, une vraie réforme à apporter.
Il y a quand même une crise d'évocation.
Mais c'est pas grave, je vais vous dire, c'est pas grave.
Bah, donc vous êtes contre le mariage des prêtres?
Oui, moi ça ne me dérange pas que demain il y ait de moins en moins de prêtres. Oh. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'Église.
Vous dites qu'il y a moins de prêtres, mais qu'il reste célibataire.
Oui, je pense qu'il faut rester fier de ce symbole et on ne gère pas comme
d'abord. Mais un tiers ordre, est-ce que vous êtes d'accord?
Non, je trouve ça compliqué.
C'est pas compliqué. Alors, Jean-Luc, rapidement.
Jésus, il n'a pas demandé de créer des tiers ordres.
Jésus, il n'a rien demandé du tout.
Enfin, moi, je ne crois plus en rien du tout. Ni au parti politique, ni au syndicat.
Donc, ni à l'église.
C'est pour ça que je peux parler totalement librement.
Vous n'allez pas nous révéler que vous avez été prêtre aussi. Parce que
il va le devenir.
Je ne vais pas vous rappeler que la religion a quand même fait beaucoup de morts dans l'histoire. Moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est la place des femmes. Dans toutes les religions, les femmes, c'est une quantité négligeable. Donc ça, c'est un peu gênant. Oui. Mais comme je ne le suis pas dans les églises,
on n'en est même pas là.
Moi, qui suis non croyant, qu'un prêtre se marie, d'ailleurs, ça éviterait toute l'hypocrisie, et peut-être que ça fera remonter les effectifs, j'en sais rien, mais je ne vois pas en quoi, si un homme aime une femme, voire un homme aime un homme, si c'est de l'amour sincère,
je vois pas
où est le problème.
Mais regardez ce que dit ce prêtre qui témoigne dans Le Parisien. Il dit quand on est au séminaire, notre désir c'est de donner notre vie à Dieu. Alors j'ai accepté ce célibat, je l'ai respecté pendant des années, même si je ne me suis jamais mis de barrière. J'aime cet engagement, mais moi j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose et j'en ai souffert. Donc l'engagement d'un jeune prêtre,
mais il y en a 15 ans, ça manque.
15 ans après, c'est
compliqué.
Dominique,
je pense que le tournant que l'on vit, et qui pour ceux qui sont catholiques est un tournant extrêmement douloureux, est un tournant historique. Et donc, ça veut dire que ça va mettre 50 ans ou 100 ans avant que de nouveaux équilibres soient trouvés. Et ça veut dire aussi, me semble-t-il, que ça ne se limite pas au problème de savoir si les prêtres peuvent se marier. Mais je réponds quand même à votre question. Personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais je prendrais le problème d'une formule, je prendrais le problème autre. J'aimerais que l'Église catholique, du haut en bas, réfléchisse à sa façon de vivre la sexualité et ce qu'elle dit de la sexualité en général. Et je pense que ça peut nous mener bien plus loin que le seul problème d'un hypothétique mariage des prêtres, et que de ce point de vue-là, il ne me paraît pas normal que la foi, quand elle est là, quand elle est au rendez-vous, et l'espérance quand on y croit, etc., puisse être étroitement dépendant d'une vision datée, de mon point de vue, des rapports de l'Église avec la sexualité.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff. À demain à 10h. Bonne journée sur Sud Radio.